Ma fille, vous voyez.
Ah, elle a du talent, hein, du talent. Forte, hein. Béa, ça met la pression hein, quand on a une fille qui a du talent comme ça. Hein.
C'est pour ça qu'il faut faire des choses compliquées.
Absolument.
Eh oui. Mais j'ai pas compris, le premier truc qu'elle va chercher dans le jardin, c'était quoi?
Des feuilles de consoude.
Ça, c'est quoi ça, des feuilles de consoude?
Ah, mais là, je laisse parler l'experte, parce que moi, en informatique, c'est bon, mais pas en feuilles. Voilà.
Elle a dit pas en feuilles. Bravo.
Chacun son truc.
Béa. Alors, Béa, oui, c'est vrai, moi, ça m'intéresse. C'est quoi? Parce qu'alors, elle a l'air d'être une cuisinière hors pair. Table.
Je confirme.
Non, alors franchement, le truc,
ouais,
quoi,
parce que le plat
pour un jeudi soir, tu sais, un machin enrobé de trucs mûches.
C'est la petite entrée des
boules. Ah là 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 là, entrée.
Ah mais ça c'est pas en « on », ça c'est « et ».
Non. Ah oui, non mais entrée, il y a aussi « entrée », il y a aussi « on ».
Que ce soit au début ou à la fin, ça compte aussi.
C'est égal où il est le « on ».
Ouais, bah alors je dis plus rien.
Non, Béa, faites pas la tête.
Non, je fais pas la tête.
Bon, qu'est-ce que c'est que ces feuilles de consoude?
Eh bien, c'est une plante qui, comme on l'indique, soude.
Soude? Qui soude quoi?
Eh bien, c'est-à-dire que c'est très utilisé lors de. D'entorses, de. Ah, mais alors on dit quoi?
Elle est chou, cette Béa.
Des serrures, lorsqu'il y a des lésions osseuses, etc.
Voilà. Bravo!
Bravo. Voyez, bon, hein, est-ce que c'est quand même mérité? Allez, on laisse encore une minute.
Une dernière minute, ce sera vraiment la décisive. Attention, parce que là, c'était un petit peu de l'entraînement. Hein, vous l'avez remarqué, hein. D'accord?
Oui, alors maintenant, il faut passer ma fille, parce qu'elle est plus maligne.
Non, 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 on veut la mère.
Tu as vu comme elle se dévalorise, la
fille,
la maman.
On a vu que c'était bon. Je pense qu'elle aura mérité le cadeau.
Elle a mérité.
Mais une minute avec maman.
Puis vous faites souvent des petits plats comme ça, juste hyper compliqués?
Ouais, hier soir, je leur ai fait... pour le dessert, un gratin de pommes et de cornouiller.
De quoi?
De cornouiller.
Ils ont quoi
de
dans leur
jardin? Cornouiller.
Oui.
C'est quoi?
Avec un crumble par-dessus.
Crumble.
Ça, c'est bon.
Délicieux.
Ouais, ça doit être bon, ça.
Mais
c'est
vous
quoi
savez,
le cornouiller?
C'est unique, ça.
Mais c'est gras, le crumble, il y a beaucoup de beurre.
On n'en met pas trop.
C'est quoi le cornouiller là, c'était? Ouais.
Le cornouiller, voilà. C'est un arbre porteur de fruits rouges qui ressemble.
Non, et moi.
Allez,
non, c'est deux secondes, moi je l'accorde. Bravo.
Bon allez, des places dessinées pour tout le monde.
Ah super.
Mère et fille iront au cinéma ensemble après s'être fait un bon gueuleton, et vous nous invitez quand, Béa?
Ah ben, dites-moi quand est-ce que vous avez un petit moment.
Maintenant, tous les jeudis soirs, on est là, 19h-20h.
Ah ben alors, rappelez, et puis je vous passerai les essences par informatique.
Ah,
oui, très bonne idée.
On est mal barré, alors.
Elle a trouvé la combine, hein, Béa.
Et Johanna, tu la forces, s'il te plaît, à faire un petit truc pour nous, que vous viendrez nous apporter un de ces soirs?
Ben, vous pouvez venir manger à la maison.
Regarde, l'autre, elle dit non, je vous donnerai par informatique. Puis la fille, elle dit venez chez moi.
Ouais, ouais.
Vous voyez comme c'est.
Quand c'est maman qui cuisine, il n'y a pas de problème.
Très social.
Ouais, ça sent.
Merci tout le monde, en tout cas. Merci mère et fille, merci Béa.
Des bisous, les filles.
Merci Johanna.
Merci, bonne soirée.
Ne quittez pas, hein, on va prendre votre adresse pour les places de Cinoche.
Je laisse ma fille au téléphone.
Oui.
Vous laissez votre fille au téléphone.
Retrouvez l'émission en podcast sur www.radiofr.ch. Radio Fribourg.
Il est 20h. Radio FR. Radio Fribourg. La story Radio Fribourg. On a plongé dans nos archives et on a retrouvé ça. Les histrions avec Sylvain Grangier.
Les histrions, le rendez-vous du mercredi à 12h45, un rendez-vous qui mêle l'humour et l'histoire. Tout au long du 19e siècle, la lutte contre le contrôle politique du canton fait rage entre les radicaux d'une part et les conservateurs catholiques d'autre part. Cela se traduit à Bulle par la présence simultanée de deux gares au début du 20e siècle, une pour chaque camp, et ce n'est pas que l'aspect ferroviaire qui est concerné.
L'ami, pourquoi il y a deux gares dans cette ville?
Vous êtes pas du coin, pas vrai étranger?
Effectivement, si je suis étranger, je suis pas du coin.
Ouais, il y a une gare qui est aux conservateurs catholiques et l'autre qui est aux radicaux.
Vraiment?
Yep, celle des radicaux qui ont la ligne Bulle-Romont, écartement normal fédéral.
Oui, ça c'est bien vrai qu'ils veulent nous imposer leurs normes fédérales, normées qu'à l'écart.
Et la ligne des conservateurs, celle de Châtel-Bulle-Montbeuvon, à voie étroite.
Oh oui, qu'ils sont étroit d'esprit, ces conservateurs.
Je vois. Dis, l'ami, tu me ferais visiter la ville?
Oh, moi, vous savez, je connais pas tout.
Suivez-moi, étranger. Vous avez bien fait de vous adresser à Ernest. Je connais la ville comme ma poche.
Quelque chose me dit que vous êtes radical, Ernest.
Chut, pas si fort. Et vous, c'est quoi votre nom, étranger? Eh ben, ça va être sympa, la causette.
Demandez le journal, demandez la gruyère.
Pour de la vraie info, demandez le Fribourgeois.
C'est un torchon, ton journal.
Même pas vrai, c'est celui qui dit qui est.
Je vois que chacun a son journal aussi.
Bien vu, l'étranger. L'intention est palpable.
D'où ça vient?
Depuis l'élection cantonale de 1853.
Alors, les résultats sont clairs, le candidat radical a gagné.
Comment ça? On est beaucoup plus de conservateurs à avoir voté.
Allons, allons, calmez-vous. En tant que greffier radical du bureau électoral radical, je peux vous assurer de l'impartialité du scrutin.
On veut le recomptage des voix.
Ah, vous le prenez comme ça. Alors, laissez-moi vous donner une leçon démocratique de transparence radicale. Sortez le canon, les gars!
Quoi? Oh!
Oh! Je crois qu'on a gagné.
À l'affaire.
Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, je suis juge, évangile, acte des apôtres, épître, apocalypse.
Qu'est-ce que c'est que ça?
Les canons de l'église. Là, vous avez les deux banques, la Banque Populaire de la Gruyère qui est aux radicaux et le Crédit Gruyérien qui est aux conservateurs catholiques.
J'imagine que les radicaux braquent la banque des conservateurs et inversement.
Absolument pas, on touche pas au pognon. Le respect mutuel est de mise.
Des choses pareilles.
Vous donne pas soif de jouer de cette harmonica?
Si. Il y a deux saloons, c'est ça?
Tout juste.
Je chibre un picatou.
Ernest McClasson, maudit radical.
Johnny Borkard, saleté de conservateur.
Dites, vous voudriez pas aller régler ça d'or avec un vrai duel, histoire qu'on puisse finir notre partie?
Ah, évidemment,
oui, non, bien sûr.
Intéressant.
Le monde se divise en deux catégories. Ceux qui ont un compte en banque chargé et les beuses. Toi, t'es une beuse.
Dieu est avec nous et il déteste les cornios de ton genre.
Eh oh, et quand on tire, on raconte pas sa vie.
Dites donc, l'étranger, tu nous laisses régler nos affaires entre nous? Et t'es qui, d'abord?
Ernest.
Ouais, j'en ai ras les éperons. À chaque fois qu'on demande, il joue...
L'international, Ernest. Il joue l'international communiste.
Quoi? Tu veux dire que c'est un...
socialiste?
On a vu rouge un peu, là, non?
L'épisode de l'élection de 1853 est authentique. Les radicaux ont bien sorti un canon du château de Bulle conduisant à la gabegie générale. Ce sont les conservateurs qui domineront le paysage politique cantonal durant plus d'un siècle jusqu'en 1966. Faisant parfois bloc avec les radicaux contre les socialistes. Ces derniers apparaissent en 1905 dans le canton, mais il faut attendre 1946 pour les voir accéder au Grand Conseil et 1971 pour l'élection d'un conseiller d'État. Les histrions reviennent mercredi de la semaine prochaine. Prochaine à 12h45 sur Radio.
La story Radio Fribourg.
on a plongé dans nos archives et on a retrouvé ça.
Le journal de Marianne.
Non, non, Marie-Anne, en deux mots, attention, deux mots, Marie-Anne. Si on me demande si j'aime ma famille, je dirais oui, sans hésiter. Puis je me mets à réfléchir, à froncer légèrement les sourcils. Oui, j'aime ma famille. Lorsqu'il y a une fête de famille, je suis toujours contente d'y aller. Pour commencer, il y a ma tante neurasthénique. Je l'appelle comme cela car elle n'arrête pas de se plaindre de sa vie, de sa santé qui n'est jamais bonne. Elle a dû avoir toutes les infections possibles et imaginables que généralement moins de 0,003% de la population mondiale a eues. De plus, elle a été capable de faire une dépression alors qu'elle n'a jamais eu à travailler de sa vie et que son seul souci était de déménager de son appartement super grand et classe pour un autre appartement encore plus grand et encore plus classe. Ma mère, c'est la plus super des mères antisociales, handicapées sentimentalement et obsédées des chiens et de la nature qu'ils soient. Elle m'a enseigné que les hommes sont super, mais qu'il faut se méfier car ce sont tous des profiteurs, des menteurs et des lâcheurs. Elle me pousse à vivre une vie heureuse, mais il faut juste me méfier car le monde est rempli de profiteurs, menteurs et lâcheurs. À peine étais-je arrivée à la dernière fête de famille que ma tante, ma mère et ma sœur m'ont sauté dessus pour me faire remarquer que mon décolleté était trop plongeant et que j'avais l'air vulgaire. Entendez par là qu'on voyait la naissance de mes seins. Malheureusement, lorsqu'on fait un 95D, c'est difficile de cacher sa poitrine. Même en col roulé, on pourrait croire que je tourne un porno. C'est sûr que ça ne peut que choquer les planches à pain de la famille. Pendant près d'un quart d'heure, toute la famille m'a touché les seins pour débattre de la meilleure hauteur de mon décolleté. Heureusement, en voyant mes oreilles fumer, mon parrain est venu à mon secours et m'a sorti de là. Mon parrain est comme un père pour moi. C'est probablement un des seuls avec qui je peux avoir une conversation sans avoir envie de me tirer une balle par la suite. Lorsque j'étais dans une période où je déprimais, il m'a même proposé de venir chez moi pour discuter. J'étais toute contente. Bon, ça fait une année et demie que j'attends qu'il vienne, mais au moins, il m'assure qu'il n'a pas oublié. Heureusement que j'étais pas suicidaire, sinon notre discussion serait post-mortem depuis le temps. Mais bon, au moins, il est là pour me tirer des griffes familiales, je lui en demande pas plus. J'adore ces fêtes de famille, car ça me permet à chaque fois de me réjouir d'avoir déménagé dans un autre canton. Je les vois juste le temps qu'il faut pour qu'on s'aime, et je pars juste avant qu'on se déteste. C'est cool, la famille.
La story Radio Fribourg. On a plongé dans nos archives et on a retrouvé ça.
Allez, c'est l'heure de notre arrêt télé. Et on a quand même trouvé, après la doyenne du monde, la doyenne des mamans.
Elle veille sur ses nouveau-nés avec l'attention et l'amour d'une mère. Une mère largement en âge d'être grand-mère. À 70 ans, Safina Namukwaya vient de donner naissance à des jumeaux.
Avoir un seul enfant, c'est comme avoir une seule allumette. J'ai donc recommencé.
Un garçon et une fille en bonne santé dont on ne connaît pas encore les prénoms. 3 ans après la naissance de son premier enfant, une petite fille, cette nouvelle grossesse a fait le bonheur de la septuagénaire.
Lors d'une visite de contrôle, on m'a dit que j'avais des jumeaux. J'étais très heureuse et j'ai pris soin de cette grossesse dans la joie.
Radio Fribourg. La story Radio Fribourg. On a plongé dans nos archives et on a retrouvé ça.
Mardi,
c'est une autre histoire.
Le générique qui nous permet d'accueillir avec les honneurs qui lui sont dus, comme chaque mardi, l'historien de Radio Fribourg. Bien le bonjour Alain-Jacques Tornard.
Bonjour Mike, bonjour à toutes et à tous.
Plaisir de vous retrouver comme chaque semaine autour de faits d'histoire qui vont nous comprendre, qui vont nous permettre de mieux comprendre ce qui se passe aujourd'hui, qui vont nous permettre de mieux appréhender peut-être ce qui va arriver d'ici quelques années. Et ce n'est pas un secret pour nos auditeurs, Alain-Jacques Tornard, vous adorez visiter des expositions, vous adorez les dessins de presse, vous vous êtes régalé devant l'exposition Burki à Lausanne. Hein.
Oui, alors j'ai toujours beaucoup aimé Burki parce que j'avais fait quelques petites expositions, vous savez que j'aime beaucoup utiliser le dessin de presse. Hein. Ça dit tellement de choses. C'est un instantané. C'est un pas seulement un instantané. C'est surtout un comment dirais-je quelque chose qui résume tellement bien une synthèse. Voilà.
Souvent, surtout chez les bons dessinateurs de presse. Et Burki, c'était un génial bonhomme.
Hein, exactement, qui a œuvré pendant quand même 38 ans hein, aux 24 heures et autres publications. Il continuait d'ailleurs jusqu'à sa mort sur Internet à publier deux trois dessins. Il est mort en 2016 et il nous manque beaucoup et cette exposition est vraiment une belle rétrospective de toute son œuvre. On peut même se faire photographier. Il avait fait un très beau dessin ça, vous savez, du syndic de Lausanne, Brella. Alors, on peut se faire une photo avec la tête, juste avec le corps de Brella. Et puis, on peut faire aussi un quiz. C'est vraiment, on peut y aller en famille. Ça vaut vraiment la peine. Et d'ailleurs, prochainement, j'irai voir aussi une exposition sur Chapat.
Ça, beaucoup. C'est à Genève, je crois.
À Genève, oui. Ce qui nous permet de dire, petit scoop.
Attention, mesdames et messieurs, ça, c'est la nouvelle qu'on est tellement heureux de vous annoncer ce matin avec Alain Jacques Tornard.
Oui, alors, ça se confirme. Nous allons pouvoir faire une exposition. Je vais pouvoir faire une exposition avec notre Alex.
Oui,
j'allais dire ça, national.
Et je me souviens, la dernière fois qu'il était venu nous rendre visite, vous lui aviez soufflé l'idée en direct sur Radio Fribourg. Et tout de suite, j'ai vu dans son regard, il y a quelque chose qui va se réaliser là.
Parce que c'est les 30 ans du jumelage entre Fribourg et Rueil-Malmaison. Mmh, et donc, je me suis dit, pour marquer le coup, je vais faire quelque chose qui les interpelle. Et puis, j'ai remarqué que Alex, c'est un esprit qui est tellement ouvert sur le monde et qu'il a beaucoup dessiné. Ce qui se passait en France. Alors donc, 30 ans de jumelage, 30 dessins d'Alex, plus quelques bonus. On a des points communs. Il aime beaucoup faire quelques parodies, vous savez, de Tintin,
bien sûr.
Petit Prince. Alors, puis j'ai vu qu'il utilisait même des fois la figure de Napoléon. Et ça, ce sont des expositions que nous avons réalisées.
Donc l'exposition, elle sera à Fribourg, à Rueil-Malmaison, ou les deux.
Les deux.
Je disais, si depuis Fribourg, on doit tous aller à Rueil-Malmaison, c'est pas que ce soit pas beau, mais...
C'était ça le challenge qui est intéressant, c'est qu'il faut que ça parle aussi bien aux Fribourgeois qu'aux Français.
On a déjà des dates ?
Alors, la date n'est pas arrêtée totalement, mais ça sera probablement l'automne, octobre,
en
Suisse.
On invitera Alex d'ici là. On est obligé.
On l'invitera à ce moment-là. Ouais. Et bien sûr, de l'autre côté, à Rueil-Malmaison, sans doute en décembre.
Exposition consacrée à notre génial Alex, qui nous écoute très certainement, parce que c'est un fidèle auditeur de notre émission. C'est une autre histoire. On te salue, Alex. On se réjouit de te recevoir très bientôt. On parle ruée vers l'or, dans quelques instants, si vous êtes d'accord, Alain Jacques Tornard.
Mettre plein les poches.
Voilà, parce que c'est un événement que nous commémorons cette semaine et je vous ai ressorti un petit générique de série télé. Ah. Je suis sûr que vous allez avoir la larme à l'œil. À tout de suite après Bryan Adams sur Fribourg.
C'est une autre histoire.
Il arrive dans cette émission qu'Alain Jacques Tornard choisisse pour nous une musique. La voici, la musique du jour. Je lis l'émotion dans l'œil de l'historien de Radio Fribourg, cette musique. C'est le générique d'un feuilleton, mais on l'entend toujours en bruit de fond. Si vous aviez votre casque, vous entendrez que j'ai toujours la musique. Hein, mais Alain Jacques, il est réfractaire au casque, je ne sais pas pourquoi. C'est quoi le titre de ce feuilleton alors ?
Fortune,
voilà, créé en 1969. Ça raconte la vie d'un de nos compatriotes, Johann August Suter, qui débarqua en Californie en 1839 et qui subit de plein fouet la ruée vers l'or 9 ans plus tard. J'utilise volontairement le terme de subir, car si les plus chanceux ont fait fortune, d'autres sont sortis de cette aventure complètement exsangue. La ruée vers l'or en Californie, Alain Jacques Tornard, tout a commencé un 24 janvier 1848.
Et oui, sur la propriété du Suisse, Johann Suter, un ouvrier du nom de James Marshall, découvre des pépites d'or mélangées à des cailloux alors qu'il travaille à la réparation d'un moulin à eau. C'est terrible parce que ça va ruiner le propriétaire.
Ah, complètement.
Sa trouvaille va déclencher une guerre, susciter la première ruée vers l'or du continent nord-américain, accélérer d'ailleurs le peuplement de l'ouest américain, parce que ça va apporter tellement de gens, et bouleverser l'économie mondiale, carrément. C'était comme un volcan, cette découverte.
C'est une ville comme San Francisco qui a grandi de façon exponentielle en quelques années.
Oui, en plus le statut à l'époque de la Californie est ambigu. Alors là, on citait cette musique, parce que c'est la musique de Georges Delerue.
C'est
un de mes compositeurs de films et compositeur tout court.
Je crois que c'est lui qui avait composé aussi la musique pour les Brigades du Tigre. Je crois que c'était lui aussi, il me semble.
Je ne sais plus pour les Brigades du
Tigre. À vérifier.
Oui. Mais il avait composé...
Sam et Sally aussi.
Plein de musiques de films très connues et de feuilletons que j'ai adoré littéralement. Et là, alors bon, revenons je pensais à la Californie parce que je pensais à Zorro.
Ah, voilà.
Le feuilleton de 1957 de mon enfance qui se passe justement en Californie et qui montre d'ailleurs très bien bien le statut de la Californie qui appartenait à l'Espagne. Que tout le continent sud-américain et d'Amérique centrale s'était pratiquement émancipé dans les années entre 1815 et 1820, en 1821, c'était encore espagnol. Et ensuite, ça devient mexicain. Et donc, c'est un territoire qui est un peu en dehors, qui n'est pas encore américain, qui n'est pas membre des États-Unis. D'où, d'ailleurs, alors, encore maintenant, cette polarisation entre deux mondes, celui de la côte Est et celle de la côte Ouest, avec la Californie, qui finalement, des fois, on dit même que c'est une puissance en tant que telle. C'est pour ça que les Américains ont eu qu'une idée en tête, c'est de mettre la main sur ce territoire. En décembre 1848, le président américain confirme très officiellement la présence d'or en Californie. Et après une guerre très rapide, le Mexique est contraint de céder aux États-Unis la Californie ainsi que tous les territoires situés au nord du Rio Grande. Ça a été une grande perte. C'est d'ailleurs pour ça encore maintenant, pour les Mexicains, cette frontière qui existe, mais presque une frontière artificielle, on leur a arraché littéralement ces territoires-là. Alors bien entendu, dans le monde entier, dans les journaux suisses, on parle de cet or qu'on a découvert là-bas.
On sait s'il y a beaucoup de Suisses qui ont tenté d'aller faire fortune là-bas, à part évidemment terre dont on parle aujourd'hui.
On n'a pas calculé qui est parti, parce que tout le monde partait à un moment donné, énormément de gens quittaient la Suisse. La Suisse était pauvre, je rappelle qu'avant les...
À l'époque, c'était les Suisses qui étaient les réfugiés à l'étranger.
Qui migraient en grand nombre, justement à partir de ce moment-là, vers les États-Unis. Et puis, pour les catholiques, parfois c'était vers l'Amérique du Sud, d'où le phénomène de Baradero, qu'on va voir quelques années plus tard, ou déjà Nova Friburgo au début des années 1820. On voit bien que tout cela se met en place. Et ce territoire-là, il est tout simplement le territoire qui appartient en partie à un Suisse. Ce fameux Sutter qui est parti, qui est un curieux personnage. Moi, quand je voyais le feuilleton, j'avais adoré. C'est terrible.
Le feuilleton idéalise toujours les protagonistes.
On se dit, c'est quand même merveilleux, tout ça, parce qu'on voyait que les bons côtés, il y avait une chanson et tout. Et il partait là-bas, mais en fait, il s'est avéré que c'est un personnage qui a créé Sacramento, quand même, qui est la capitale de la Californie, la capitale administrative de la Californie. Mais en fait, il utilisait des esclaves. Bon, vous allez me dire, tout le monde faisait ça à l'époque. Mais disons que son attitude par rapport aux Indiens aussi, encore une fois, très tendance aussi à l'époque, fait que ce personnage...
Mais
il a été idéalisé par un écrivain suisse neuchâtelois qui s'appelle Blaise Cendrars. Blaise Cendrars a écrit en 1925, il sort un roman qui s'appelle L'Or, où il décrit justement de manière assez étonnante notre...
Donc ce Sutter, parce qu'il nous reste très peu de temps, a été très, très vite dépassé par les événements.
Totalement, et il a été...
Il y a beaucoup de violence, il faut dire, à cette époque.
S'est installé sur cette terre. Encore une fois, les statuts étaient très ambigus. Il va faire recours sur recours, aller jusqu'à Washington. Il va se ruiner complètement. Il va finir dans une misère absolument crasse, à moitié fou. Et voilà comment l'or peut briser des vies et enrichir certains.
Voilà, j'ai vu si jamais que le feuilleton Fortune, je crois qu'il est toujours, en tout cas le générique, je l'ai trouvé sur YouTube. Et si on cherche un petit peu sur Internet, parfois ces vieux feuilletons, on peut les retrouver. Vous nous le recommandez
avec
Pierre Michael, qui est un acteur très connu à l'époque, qui jouait le rôle principal.
Si quelqu'un peut me le trouver, je suis preneur, parce que je suis allé dans plusieurs des gens qui vendent
des vidéoclubs, ça n'existe plus.
Des gens qui vendent des à Paris, un spécialiste qui habitait juste à côté de chez ma fille, et il a jamais réussi à me trouver ce feuilleton.
Alors écoutez, on passe l'appel à nos auditeurs, si quelqu'un connaît dispose du feuilleton Fortune, que ce soit
1969,
que ce soit en VHS ou en DVD, vous avez de quoi lire tous les support à la maison, évidemment.
Exactement.
Je pense qu'avec Rio, on va venir installer chez vous deux ou trois petites machines pour que vous puissiez lire ça. On a l'habitude. Ça se termine toujours par un bon apéro. On est toujours bien accueillis chez Alain Jacques Tornard. Donc, bienvenue sur notre WhatsApp au 079 127 70 65.
C'est une autre histoire.
Tout avait tellement bien commencé pour le patron de la Maison Blanche. On se souvient de l'American Rescue, hein, son fameux plan de sauvetage de l'économie américaine. Mais bon, par la suite, bah, il y a eu l'évacuation chaotique de l'Afghanistan sous le regard désapprobateur quand même d'une grande partie de l'opinion publique mondiale. Voilà, un an et quelques jours que Joe Biden est le président des États-Unis d'Amérique. Alain Jacques Tournard, quelque chose me dit que le bilan que vous tirez de son mandat, je sais déjà comment vous adorez les Américains, quelque chose me dit que le bilan n'est pas des plus positifs. Hein.
Non, mais je ne m'en réjouis pas du tout, parce que l'Amérique, quoi qu'on dise, quand même un des socles de notre civilisation occidentale. Et quand l'Amérique va mal, le monde entier va...
Quand l'Amérique s'enrhume, le monde entier tous. Hein.
Voilà, exactement. Bon, vous vous souvenez que je disais toujours qu'on allait toujours tirer à boulet rouge sur Trump, mais on allait tout passer à Joe Biden. C'est un petit peu ce qui se passe. Hein. On édulcore beaucoup ce qui se passe. Joe Biden, c'est un malchanceux. Moi, je me souviens quand il était le vice-président d'Obama, je me disais, mais c'est lui qui devrait succéder à Obama. Il a de l'allure, si on veut bien. Hein. Personnage, il a belle prestance. Mais il est devenu, il est trop vieux. Voilà, je veux pas faire, moi qui deviens bientôt un senior aussi.
Oh, ça s'entend tellement pas.
Je veux pas jouer là-dessus, mais c'est vrai que quand on a son âge pour être président des États-Unis, c'est un peu difficile. Et c'est un malchanceux. Il a été malchanceux durant toute sa vie. Hein. Il y a eu des drames, la perte de sa femme et de sa fille, la perte de son fils d'ailleurs il y a quelques années, ce qui l'a empêché de se présenter, ce qui a fait qu'il y a eu Hillary Clinton qui s'est présentée, ce qui a fait que Trump a été élu. Vous voyez, des choses comme ça en 1987, déjà il pensait être président des États-Unis et là il avait fait une bourde monumentale en imitant, en reprenant tel quel quasiment le discours d'un homme politique anglais qui s'appelait Kinnock pour parler de son enfance, qu'il était une sorte de self-made man, etc. Ça avait été une catastrophe. Donc vraiment, c'est l'homme qui a la poisse, quoi, quelque part. Et il arrive toujours à des moments très difficiles dans son histoire.
Alors, reprendre le commandement des États-Unis après un président fantasque, voilà, comme Donald Trump, là déjà, c'est un héritage très lourd.
Ouais,
hein.
America is back, clamait Joe Biden après sa victoire. Mais finalement, bah, oui, vous évoquiez le bourbier d'Afghanistan. Je ne vais pas remuer le couteau dans la plaie, tellement ça a été éloquent. Mais ça, c'est pas Trump qui était responsable du bourbier. Hein. Lui-même avait déjà essayé. C'est le fait même d'y être allé et puis d'être s'être comporté comme les Américains se sont comportés, n'allant pas jusqu'au bout de leurs activités là-bas. Et puis bon, de toute manière, il y a un problème avec bien sûr la Covid qui a frappé les Américains. Le plan de relance, l'augmentation de l'essence est tellement sacré, la voiture aux États-Unis, ouais, augmenter l'essence, qui reste d'ailleurs bien moins cher que par chez nous, mais il n'empêche que c'est quand même absolument insupportable. Une inflation quand même très très importante aux États-Unis qui a du mal à accepter cela, d'autant plus qu'on prévoit des taxes. Les Américains n'aiment pas du tout ça.
Ah, pour eux, c'est le communisme, les taxes.
1500 milliards de taxes supplémentaires sur 10 à 15 ans, la plus haute grande hausse depuis 1968. Et donc maintenant, Joe Biden est considéré non pas comme un centriste, mais comme un progressiste. Progressiste, ça veut dire socialiste. Socialiste, ça veut dire communiste. Voilà. Je résume. Eh bien, voilà. Et donc, c'est pour cela, en plus, qu'il a des problèmes. Il va prendre une dérouillée fabuleuse aux élections de mi-mandat. C'est d'ailleurs toujours fréquent. Le problème, c'est qu'ils sont 50-50 à la principale chambre aux États-Unis et que ça va basculer dans l'autre sens. Et que maintenant, déjà, il est paralysé. Ça veut dire que son mandat, ça veut dire que virtuellement, on va rentrer déjà en campagne électorale aux États-Unis pour savoir qui va être son successeur. Alors lui, il avait préparé en plus Kamala Harris. Enfin, il l'avait pas préparé parce que c'était une de ses pires adversaires avant qu'elle soit élue. Mais vous savez que aux États-Unis, on prend souvent son pire adversaire pour pouvoir bien le contrôler et peut-être aussi des fois lui savonner la planche au passage. Alors tout le monde pensait qu'elle allait petit à petit se substituer à lui, et c'est pas le cas. Il lui a donné quelques missions. Maladroitement menée. On n'en a pas parlé beaucoup, mais par exemple, elle est venue à Paris, où on l'a plutôt retenu, le fait qu'elle allait dans les beaux magasins s'acheter des sacs à main. Donc, c'est un petit peu... Aux États-Unis, on en a...
Mais c'est vrai, vous soulignez un point très important, là, Jacques Tornard. Du temps où c'était Trump qui était au pouvoir aux États-Unis, le moindre de ses faits et gestes était commenté et souvent conspué par la presse internationale. Et puis, depuis que Joe Biden est au pouvoir, on ne parle plus, quasiment plus, de cette administration américaine. américaine.
Oui, hein. Alors qu'il il a voulu faire des choses qui sont très intéressantes, hein, de relancer l'économie.
Voilà. Donc, en parler en bien plan... ou en mal, mais voilà. C'est vrai qu'on en parle.
Mais disons qu'il commet tellement d'erreurs. Et en plus, je veux dire, on voit même là, la politique, vous en parliez tout à l'heure aux informations, elle n'est pas claire. Les messages que donnent les États-Unis ne sont pas clairs par rapport à la Russie. Est-ce que là, ils sont en train de dire qu'il y aura une guerre si la Russie attaque ou seulement des sanctions. Vous voyez, ça, c'est pas bon comme message, parce qu'ils ont déjà fait le coup plusieurs fois. Hein. C'est comme ça qu'on avait eu, on l'avait évoqué, la guerre en Irak avec Saddam Hussein qui avait envahi le Koweït parce que l'ambassadrice lui avait fait laisser croire qu'il pouvait y aller franco. Là, attention à ces messages quand un président est faible. Sur le Taïwan, par rapport à la Chine aussi, c'est pas tout cela n'est pas suffisamment clair. Et en plus, il y a le fantôme de Donald Trump qui plane. Cette élection qui est contestée.
Il y a toujours une partie de l'Amérique qui croit que cette élection lui a été volée.
Ce qui veut dire qu'il n'est pas reconnu par une partie des Américains comme un président légitime.
Ouais. Cette scission, on a deux Amériques aujourd'hui. On le remarque avec Donald Trump qui lance ses propres médias, ses propres réseaux sociaux. Vous pensez qu'il y aurait moyen de réconcilier ces deux Amériques un jour?
C'est pas pour rien que les États-Unis ont eu une guerre de sécession. On parlait tout à l'heure de la Californie, parce qu'on pense toujours au Nord-Sud, mais il y a aussi Est-Ouest. C'est deux mondes différents, c'est pas seulement une différence de fuseau, mais là on est dans deux sphères intellectuellement parlant, presque civilisationnelles différentes. Les États-Unis, c'est un melting pot, comme on dit, mais c'est aussi un État finalement assez fragile. Heureusement pour les États-Unis, la guerre n'a jamais été portée sur son sol depuis l'extérieur. Donc, mais sinon, on découvrirait que ce pays est extraordinaire. C'est là-dessus d'ailleurs que jouent les Russes. Les Russes ont cette sensation-là que ce pays est Amérique est fragile. Et donc voilà, pour conclure, si 2021 s'annonçait radieux pour Joe Biden, il n'a pas su exploiter toutes les opportunités qui s'offraient à lui. Il n'a pas pu mener à bien ces réformes qui étaient tellement vitales pour les États-Unis. Et lorsqu'on ne s'impose pas, les adversaires en profitent. L'histoire a horreur du vide.
On l'a dit très souvent.
Le retour de Sleepy Joe, parce que
vilain surnom qui lui avait été donné par Donald Trump.
Pas loin, et les dangers pour 2022, bien sûr, pour cette année. L'immigration, les élections de mi-mandat, l'économie, les menaces ne manquent pas. Il faut que la présidente de l'Amérique unie se ressaisisse, au risque d'être face à un triple échec politique, économique, social, sanitaire. Et j'allais dire militaire. C'est ça qui est très, très dangereux dans la situation que l'on vit actuellement. C'est que les États-Unis, qui longtemps n'ont pas du tout eu intérêt, par exemple Trump, on peut dire tout ce qu'on veut contre lui, n'a pas voulu mener de guerre à l'extérieur. Et là, vous voyez, quand on est en très grande difficulté, l'idée de se refaire une beauté en menant une guerre victorieuse ou en menant en tout cas la dragée haute à un pays en l'humiliant, et là, pour les Européens, c'est extrêmement dangereux.
Bilan d'un an de présidence de Joe Biden avec Alain-Jacques Tournard. Je me suis rendu compte, Alain-Jacques, que vous adoriez la télévision, mine de rien, parce que quand j'ai ressorti le petit générique tout à l'heure de ce feuilleton de 1969. Là, on lisait l'émotion dans votre regard, on l'entendait dans votre voix également. Si on repassait en revue tout à l'heure l'histoire de la télévision, qu'est-ce que vous en pensez, qui est né? L'anniversaire tombe presque pour aujourd'hui, le 26 janvier 1926. On verra que la télé à l'époque ne ressemblait pas trop à celle d'aujourd'hui. Vous êtes partant pour une petite rétrospective, Alain-Jacques Tournard?
Oui, on va parler surtout des origines.
De la télévision.
On va voir.
37.
C'est une autre histoire.
Retour en 26 janvier 1926. L'ingénieur écossais John Logie Bird se livrait à Londres à la première retransmission publique de télévision en direct. Alors rien à voir évidemment avec les immenses écrans HD qui ornent nos salons, avec les barres de son. Non, à l'époque il s'agissait d'une image saccadée, de même pas 4 cm de côté, générée par un disque tournant, avec pour seul accompagnement sonore quand même le bruit de la machine. Il n'empêche que la télévision était née, et très vite Alain-Jacques Tournard, les pouvoirs publics se sont rendus compte qu'ils disposaient là d'une arme tout simplement redoutable.
Hein. Eh oui. Bon, je pense que certains de nos auditeurs sont en train de se dire, attendez, Mike, vous avez fait une erreur, 1926, nous on se souvient en Suisse que les plus âgés que la télévision, il n'y a pas que le droit de vote qui est arrivé tard en Suisse.
Ah ouais, la télé aussi.
Je veux dire, c'est les années, début des années 50, si je me souviens bien.
Donc, et jusque dans les années 80-90, une bonne partie de la la journée, c'était la mire.
Oui,
la mire. Hein.
Émission. Ça permettait d'ailleurs, c'était important la mire. Hein. Ça permettait aux électriciens
de régler l'image.
De régler l'image et le son. Et oui, non, vous avez bien entendu. Hein, c'est les membres de la Royal Institution assistent à cette première séance de télévision véritable, 26 janvier 1926. Alors, vous l'avez rappelé, hein, c'est une image en noir et blanc de 30 lignes verticales, donc d'une certaine qualité très discutable, mais elle permet quand même de distinguer clairement la silhouette d'un personnage transmise à partir d'un émetteur, mais qui était situé dans la pièce voisine.
Ouais,
la séance a lieu donc 32 First Street, dans le laboratoire de l'inventeur, qui n'a que 38 ans d'ailleurs, et qui avait fait de longues recherches. Il avait déjà présenté son invention en octobre de 1924 dans un magasin Selfridge sur Oxford Street. Donc c'est là le lieu de naissance réel de la télévision. Mais le résultat avait été trop médiocre pour être pris en considération. En fait, c'est l'aboutissement d'une longue chaîne d'innovation. Vous savez que, comme je le dis toujours en histoire, il n'y a pas de génération spontanée. Hein. Tout à coup, il y a une date parce qu'il faut s'accrocher à cette date, mais elle est issue de tout un processus. Et tout commence, vous savez quand, Mike? En 1875.
Ah, déjà?
Oui, déjà. Donc on pourrait bientôt fêter les 150 ans, quand l'Américain Carey suggère l'emploi du sélénium, un matériau dont la résistivité varie en fonction de l'éclairement, pour la transmission d'images à distance. Donc c'est là le point de départ, quelques années plus tard, en 1883. L'Allemand Paul, les Allemands sont toujours pas loin hein, quand il y a des inventions, comme les Français d'ailleurs, Paul Nipko invente et fait breveter un disque tournant, voilà le fameux disque tournant.
Ah, c'est celui qu'on retrouve en 1926.
Analyseur d'image, le télescope électronique,
On a fait des progrès depuis l'année dernière, je trouvais que l'accent allemand. Hein.
John Bird en tirera parti pour son dispositif. Et le mot télévision, Mike, alors là, on va faire un petit quiz. De quand il date, le mot télévision? Non, ne le regardez pas sur Internet.
Et non, je regardais s'il y avait des WhatsApp, parce que s'il n'y a pas deux auditeurs qui me soufflent, là, j'imagine que c'est tardif, non?
Le mot télévision apparaît en 1900, lors de l'exposition universelle de
plus tard,
Paris.
Hein.
Donc, 5 ans après l'invention du cinéma. Donc, quand on pense qu'il y a un gros décalage, c'est pas aussi clair que ça. Et même les Russes s'y sont mis, les Soviétiques, en 1923, le chercheur américain d'origine russe, Vladimir Zvorykin, invente une caméra électronique. Vous voyez, tout se met en place, là, l'iconoscope à l'origine de la télévision électronique. Et le 18 novembre 1929, alors qu'il travaille pour Westinghouse, il présente le premier récepteur de télévision entièrement électronique. Vous vous rendez compte, 1929.
Voilà, donc là, fini le disque tournant. Hein.
Voilà, enfin, en concurrence avec John Byrne, l'inventeur américain, Jenkins fait en juin 1925 une démonstration publique de transmission d'images animées selon un principe similaire à base de disque tournant, analyseur d'images. Donc tout le monde a eu un peu l'idée en même temps. Et bon, Byrne essaye à nouveau d'aller un peu de l'avant et il fait des premiers essais de télévision en couleur.
Ah.
Vous rendez compte, vous moquiez là tout à l'heure la télévision en couleur, ça date plutôt des années fin des années 60.
Ouais, moi, je cache pas mon âge. Hein, j'aurais, il faut que je compte hein, maintenant. Quand on commence à compter son âge,
quand on aime, on le compte.
Voilà, j'aurais 54 ans cette année. Je me rappelle quand j'étais petit, genre 9-10 ans. À l'époque, on captait déjà la télévision française où j'habitais à Yverdon, mais par le réseau câblé, parce que si on l'avait par le réseau câblé, on pouvait avoir en couleur. Mais si on l'avait par les antennes, par ce qu'on appelle la réception hertzienne, TF1 était encore en noir et blanc à l'époque.
Très longtemps, TF1 était en noir et blanc. Et l'association avec la BBC, hein, British Broadcasting Corporation.
L'accent allemand vous va mieux que l'accent anglais, je trouve.
Je sais bien. C'est les premières émissions quand même régulières télévisées à partir de l'émetteur de Daventry, 1929. Et ensuite, tout s'enchaîne.
Et aujourd'hui encore, encore, la BBC a un symbole de prestige dans le monde entier par la qualité de ses émissions.
Tout à fait. Alors les Français, on attend quand même le milieu des années 30. Je cite souvent ce film Marinella avec Tino Rossi. On voit une émission de télévision se faire avec le maquillage. Il devait faire des pourfaires contrastés. Il devait être des couches énormes de maquillage. Ça devait être très bon pour la peau. Et les Allemands, alors eux, c'est le grand développement, c'est en 1936 avec les Jeux Olympiques de Berlin. On avait l'occasion.
Hitler a compris qu'il y avait quelque chose.
Il avait développé un réseau de télévision à travers tout Berlin pour que tous les Allemands puissent assister en direct, d'ailleurs, aux émissions. On voyait les caméras qui bougeaient dans tous les sens. Et les premières émissions régulières, c'est 1939. Bien sûr que la guerre va stopper ça. On va développer. Les Français vont bénéficier. Alors, un bon côté de l'occupation allemande à Paris, c'est que les Allemands vont faire une antenne de télévision sur la Tour Eiffel. Ils vont créer une télévision interne pour les blessés allemands qui étaient hospitalisés à Paris et qui, comme ça, pouvaient regarder des images. Et les Français vont récupérer tout ce matériel après la guerre. Et c'est comme cela qu'ils pourront faire les premières émissions le premier journal télévisé, déjà en 1948. Tandis que nous, en Suisse, on devra attendre le début des années 1950.
Il y a des figures comme ça de la télévision en Suisse romande, qu'on n'appelait pas encore la RTS à l'époque, qui vous viennent comme ça en mémoire.
Moi c'est Christian Defaille et Claudette pour leur
c'était les grands cinéphiles à l'époque.
Spécial cinéma. Hein. C'était un moment que j'attendais tous les lundis. Et puis bien entendu, le rendez-vous avec Catherine Valli. Elle faisait peur, celle-ci.
Ah, vous aussi. Franchement, moi quand j'étais enfant, je la voyais. Je disais à mes parents, mais elle a l'air méchante, la dame de la télévision. Il m'expliquait, il dit non, au contraire, c'est une dame, elle est très gentille. C'est grâce à elle que les gens qui vont acheter dans les magasins, ils achètent pas n'importe quoi.
Et oui, elle a quand même créé une émission qu'encore maintenant, on ne trouve nulle part ailleurs quasiment, parce que ceux qui sont adeptes de la télévision française, ils n'ont pas l'équivalent d'un bon entendeur. Donc encore maintenant, c'est quelque chose. Je me souviens aussi de Claude Torrensinta, naturellement aussi, qui était donc la télévision suisse. Elle est quand même arrivée tardivement. Et moi, j'ai une petite anecdote. Vous parliez de la télévision chez vous. Moi, c'était... nous, on enviait, quand on était enfant, les gens d'Écharlens, donc village à côté de Marsens où j'habitais, parce qu'il y avait des endroits à Écharlens où on captait la télévision française. Tandis que nous, jusqu'à l'orée des années 80, avant le téléréseau, justement, on avait... que les chaînes nationales à disposition.
Avec nos montagnes, c'est vrai que c'était pas évident. Bah moi, mon dernier souvenir, si on peut terminer là-dessus, à l'époque, moi, quand j'étais enfant, il n'y avait pas de télécommande. Quand il fallait zapper, c'est moi qui me levais. Mes parents me disaient, tu vas appuyer sur telle et telle touche et j'obéissais. Voilà.
Et oui. C'est d'ailleurs le seul sport que vous avez pratiqué, Mike.
Depuis, il y a les télécommandes et puis ma croissance verticale se transformait en croissance horizontale. Et depuis, on a inventé les écrans 16-9. Voilà.
Voilà.
Alain Jacques Tornard pour ces savoureuses pages d'histoire. On remet ça la semaine prochaine, évidemment, Alain Jacques.
La semaine prochaine.
C'est pas de la télé.
Radio Fribourg. La story Radio Fribourg. On a plongé dans nos archives et on a retrouvé ça.
Voilà, donc on va faire un petit concours maintenant. Je vais vous donner, maintenant que vous connaissez bien le système, une chanson d'Aerosmith, c'est Crying. On la connaît assez. Voilà. Donc, on va vous la diffuser et à vous de nous envoyer vos propositions au 939 en tapant FRI. On se l'écoute déjà une première fois.
Alors, concentration, l'auditeur, sois prêt avec ton téléphone. Ça chante en français.
Et c'était là. C'était là.
C'était là. C'est ça, c'est cette phrase. C'est tout ou c'est juste ce petit bout
C'est juste ce petit bout. Non, c'est le tout. C'est ça.
Non.
Ah.
Touche à YouTube.
C'est pas ça.
Apparemment, ça sèche un peu sur les SMS. Alors autrement, on a Didier, qui est quand même le seul qui a l'air inspiré pour l'instant, qui nous dit « Quand rentres-tu dans mon lit ?»
Essayons de...
Attends, on va vérifier le truc. Ouais. Il y a « Dans mon lit ».
Dans mon lit, ça pourrait jouer, mais ça colle pas avec le début de phrase qui est prévu.
Ouais, donc quand rentres-tu, c'est pas tout à fait ça, mais dans mon lit.
Mon lit, c'est vrai que ça ressemble pas mal.
Alors attends. On a quand même un joli message de Salomé qui dit tout doux, plus quelque chose.
Ouais.
Alors ce serait tout doux dans mon lit.
Tout doux dans mon lit.
Oh. On a dans la nuit, peut-être. Céline qui nous propose dans la nuit.
Seulement dans la nuit. Ça, c'est vrai que ça se rapproche, mais c'est pas vraiment ça.
Bon, bien apparemment, il n'y a personne qui a trouvé la réponse.
Alors, je vais vous donner.
Attends, il y en a encore une qui est arrivée. Toutes dans mon lit. Dis, est-ce que tu trois petits points, point d'interrogation. Dans la nuit, trois petits points, point d'interrogation.
Bon, en même temps, je le répète, je n'ai pas la solution.
On a peut-être quelqu'un qui a une réponse par téléphone. Allô?
Salut,
c'est quoi alors à ton avis, Tintin?
Non, mais c'était pour demander un renseignement.
Alors attends, on va appeler 111. Bouge pas. Alors, tu n'as pas de réponse, Tintin?
Non, mais je voulais demander un renseignement.
Alors, on va appeler le 12-11. Bouge pas.
Alors, le...
Il est grand temps, donc...
Renseignement 1818, Vincenza, Bologna.
Oui, bonjour, madame.
Bonjour.
J'ai quelqu'un qui a un renseignement à vous demander. Oui. Tintin, vas-y.
Je voulais demander des nouvelles de Tania. C'est un moment que c'est juste pour savoir si elle est en vacances ou bien.
Madame, vous savez si elle est en vacances ou si elle va bien?
Alors, je m'excuse, je crois que vous avez dû faire erreur. Ici, vous êtes au 1818, service des renseignements.
Oui, tout à fait, c'est bel et bien un renseignement qu'on aimerait savoir. Tintin demande si Tania va bien et si... Qu'est-ce que vous voulez savoir encore, Tintin?
Non, mais si elle travaille toujours à la radio.
Est-ce qu'elle travaille toujours à la radio, madame?
Alors, moi, je ne peux pas vous renseigner, on n'a pas ce genre d'informations.
Tintin, alors, elle ne peut pas nous renseigner, je suis désolé. Hein.
Bon.
Je suis désolé, à bientôt, Tintin. Hein. Au revoir.
Au revoir, merci, merci.
Mais désolé, madame, alors.
Je vous en prie.
Au revoir.
Merci
au revoir.
Du renseignement.
Merci du renseignement.
Au revoir.
Alors, elle ne peut pas, malheureusement, nous renseigner.
Non, ma foi, c'est comme ça.
Bon, bah écoutez... ça, allez, ça dit...
Ils le font quand même vachement mieux que nous. Hein. Et je vais quand même donner la réponse, hein, parce que, en fait, avec ces renseignements, on ne sait plus où on y va. Alors, il s'agissait donc de la chanson Crying de Aerosmith.
Oui, et si il faut qu'on la réécoute parce qu'on ne se souvient plus. Que disent-ils en français?
Alors, ils disent...
Il y a toujours rien. Et j'ai turlututu, j'ai vu ton cul. Touche-moi le cou dans mon lit. Et touche à tout dans mon lit.
Eh ben, tout est juste. Voilà.
Non, mais c'est quoi? Alors, do what you do sur moi. Non.
Alors, on rappelle que, bien évidemment, il n'y a qu'une phrase en français. Et là, il peut éventuellement dire, je le rappelle, hein, je n'ai pas la science infuse.
C'est la réponse qui devrait être officielle.
Officielle, c'est tu as toutou. D'un ami, mais vraiment tout d'un ami.
Ah ouais, tu as tout.
Tu as tout d'un ami.
Ah ouais, écoutez. Ah ouais.
D'accord, quand on sait la réponse, c'est assez évident, n'est-ce
tu
pas?
Tu as tout d'un ami, bah c'est clair et net.
Ouais.
La story Radio Fribourg. On a plongé dans nos archives et on a retrouvé ça.
La bonne nouvelle du jour.
Bonne nouvelle pour les amateurs de yoga. Voici venu le tapis de yoga qui corrige votre posture tout seul. Plus besoin de prof. Yoga et technologie. Qui eût cru que ces deux-là feraient un jour bon ménage? Ça pourrait paraître vraiment absurde quand on sait que la pratique du yoga est censée nous faire déconnecter pour mieux nous concentrer sur nous-mêmes. Mais ce tapis intelligent, d'où son nom, Smart Mat, s'occupe uniquement de nous. À la façon d'un professeur, il nous guide, nous corrige et nous félicite surtout. Comment ça marche? Et bien pour pouvoir vous offrir une vraie analyse de votre pratique du yoga, ce matelas intelligent vous interroge dès votre première utilisation. Sexe, poids, taille, mensuration. Ce tapis, connecté à son application, analyse tout pour se faire une idée de votre corps. Ensuite, il suffit d'enchaîner une série de positions de base afin qu'il se rende compte de vos capacités. Une fois l'initialisation effectuée, vous pouvez commencer à vous entraîner. Alors, il va vous guider sur l'alignement, sur l'équilibre aussi. Et SmartMat offre de nombreux programmes adaptés à tous les niveaux. Il se recharge très simplement grâce à un port USB standard et il offre 6 heures d'autonomie. Bonne idée, non?
Radio FR.
Radio Fribourg.
La story Radio Fribourg.
on a plongé dans nos archives et on a retrouvé ça.
OVO présente Café Complet.
Salut Janine.
Salut Bernard.
Et dis donc, on est au match, il y a Central qui joue.
Il joue à la Neuville ou bien?
Ben ouais, à Neuville.
Un angle de bleu. Moi je veux bien, mais au sortir de chez nous, hein.
Ouais, il y a une ambiance terrible là-bas. Ça vaut la peine. Du tonnerre. Moi je dis que ça vaut la peine d'aller voir quand même.
Et que humeur, Rotter.
Hey, allez, guguer tout ça.
Et on va guguer.
Hey.
Et dis donc,
t'as vu?
C'est quoi cette boîte?
Hey.
C'est quoi?
Je peux te dire maintenant que j'ai dépensé 700 balles pour le machin.
C'est quoi ce machin?
C'est un GPS.
Mais c'est quoi un GPS?
C'est une machine, elle te dit partout quand tu dois aller, où tu dois aller.
Quoi, elle parle toute seule?
Elle cause.
Mais je te crois pas.
Il y a une gonzesse là-dedans.
Non, mais franchement.
Il y a une gonzesse qui cause dans la machine, là. Regarde. Non, c'est incroyable.
C'est incroyable.
Alors, hey, on va mettre en route. Alors, par exemple, il y a Neuville, hein.
T'écris Neuville, alors.
Tiens, alors. Essaye, t'écris. Écris,
hein. Neuville.
Voilà. Ok.
Neuville. Voilà.
Voilà. Mais maintenant, un moteur, on peut y aller. La gonzesse, elle va tout dire partout où on doit aller.
Non, mais t'es sérieux?
Et... Ah, oh,
crash un credo.
Moteur, maintenant. On y va.
Au prochain rond-point, tournez à droite, première sortie.
Ouais, tu vois? À droite.
Non, de bleu, elle dit même où tu dois aller, quelle direction, tout, bien.
Et il n'y a plus qu'à faire comme elle dit, maintenant. Alors,
hop, celle-là,
moteur. Et... Vitesse, tournez à droite. Ok, maintenant, qu'est-ce qu'on fait?
Tenez la gauche, puis tournez à gauche.
Elle dit maintenant que tu dois traverser à gauche.
À gauche, alors, à gauche, voilà.
Continuez tout droit.
Tout comme elle dit, hein.
Ouais.
Après, tu verras, en 5 minutes, on est là-bas. Formidable.
Tenez la droite.
Hey, tout, Bernard, c'est long, ce voyage.
C'est un peu lent, hein. C'est marrant. Je sais pas si elle a pris. Tu as mis un chemin plus court ou bien? Parce que moi, je trouve.
Moi, j'ai mis Neuville.
Je trouve lent. T'aurais pu mettre chemin plus court quand même. C'est marqué, mode d'emploi, faut mettre chemin plus court, autrement tu te fais passer par des endroits, c'est pas possible.
Je suis lent,
quand même, pour faire la longe, la Neuville.
Je peux plus là dans cette voiture, c'est long, long de
continuez tout droit.
Hey.
À la prochaine intersection, tournez à droite.
Alors, un coup encore à droite, d'accord.
Puis, vous êtes arrivé.
Ah, je crois que ça y est. C'est le moment.
Oh, non. On l'attendait, celle-là. Hein.
Non, mais alors, ça, c'est le moment. Hey. Je peux te dire.
Ça
mais
commence
quoi, non, mais quoi, j'en pouvais plus dans cette bagnole. Non, de bleu, va.
Eh oui, avec les gaz que j'avais encore. Ah, oh, non, de bleu. Bon, alors, maintenant, on va y aller. Merci. Ouais. Ah, bien joli terrain, là.
Mais dis donc. Comment, Bernard?
Quoi?
C'est pas le terrain de la Neuville,
mais
ça. Mais regarde.
Elle, on peut
mais
faire confiance.
Comme il faut.
J'ai payé 700 balles, quand même.
Dieu, tu reconnais pas, mais écoute, attends, moi, je vais demander. Il y a un gars là-bas, un gaillard. Bonjour, monsieur.
Bonjour.
Dis donc, Bobby, il est déjà là ou bien?
Qui donc?
Bobby.
Bobby, là. Il n'est pas encore venu.
Avec le thé, il vient toujours au match de foot.
Franchement, je vois pas.
Mais, et puis Pinson. Pinson, il est toujours en avance, d'habitude.
C'est qui, Pinson? Je connais pas.
Puis Seppi, vous avez vu Seppi?
Oh,
mais non, de gueule, c'est bien aujourd'hui qu'il y a Central qui vient jouer ou bien?
Honnêtement, je vois pas de qui vous voulez parler.
Hey, non, de gueule, on est où là?
Mais c'est où là?
Dis donc, monsieur, regardez voir là, il y a celle la dame de la boîte qui nous a dit. On est où ici?
Ici, vous êtes à Villeneuve.
Villeneuve?
Mais bravo, maman!
Mais moi, j'ai noté Neuville!
Mais c'est n'importe quoi, cette boîte! 700 balles! Bravo!
700
madame.
Balles, on n'est même pas au bon endroit, nom de bleu, nom de bleu,
bon,
nom de bleu!
Bon, ben maintenant, moteur, c'est loin, on rentre!
Maintenant, on doit loin,
on doit loin!
Via! Direction Fribourg maintenant, retour!
Bon, maintenant que tu tapes Fribourg!
Fais
attention!
Voilà, Fribourg!
Suite au prochain épisode!
Radio FR.
Radio Fribourg, la story Radio Fribourg. On a plongé dans nos archives et on a retrouvé ça.
Je vais vous parler aujourd'hui de Karl-Erik Rinsch. Il devait réaliser une série pour la plateforme de streaming Netflix avec un scénario digne des plus grandes franchises de science-fiction. Bah, c'est un projet qui ne verra jamais le jour. Et pourtant, Netflix a donné des millions de dollars à ce réalisateur. Il a tout dépensé sans jamais finir sa série. C'était gonflé, hein. Le mec, il s'est vu offrir par Netflix cette somme colossale alors qu'il avait juste fait un seul long métrage. Une décision qu'aura coûté très cher à Netflix, 55 millions de dollars. Faut dire que ça avait l'air d'être intéressant, une série télé de science-fiction avec un scénario centré sur l'intelligence artificielle. Le pitch ? On suivait un inventeur qui crée une espèce qui s'appelait l'intelligence organique. Elle interviendrait dans le monde entier pour fournir une aide humanitaire. Mais l'espèce humaine finissait par se retourner contre elle après avoir découvert leur origine. Cette série qu'on ne verra jamais, c'est White Horse, Cheval Blanc. Un clin d'œil au premier cavalier de l'Apocalypse. Bon, où est parti le pognon alors finalement ? Dans des tournages catastrophiques qui ont eu lieu en Amérique latine et en Hongrie, mais aussi dans les extravagances de Karl Rinch. Il a investi dans de la crypto, des vêtements de luxe, il s'est payé une Ferrari ou encore plusieurs Rolls-Royce. Et désormais, il est engagé dans une procédure d'arbitrage confidentielle avec Netflix. Il accuse la société de lui devoir encore 14 millions de dollars en dommages et intérêts pour rupture de contrat, pour une série qui ne sera jamais faite.
La story Radio Fribourg. On a plongé dans nos archives et on a retrouvé ça.
Tous les jeudis soirs, le club de Rio et Tania.
Bonsoir tout le monde et bonsoir Tania qui s'installe.
Bonsoir. Tranquille.
Ça va ?
Ça va et vous-même ?
Ça va bien, JD.
JD arrive, il règle un problème de téléphone parce qu'on arrive sur une combox de nos collègues quand on appelle la radio.
Ah bon ?
Oui, c'est bizarre.
Ah, c'est pour ça.
Mais sur un message que ce gars a reçu sur sa combox, c'est drôle, hein ?
C'est bizarre.
Des fois, il y a des trucs qui se passent étranges.
C'est normal, on est entouré de fils dans tous les coins. Ils sont en train de dérouler des câbles dans la radio, là.
Ça doit être ça.
Ça doit être ça, hein.
Donc, si jamais il y a
ça
des courjus.
Le faux câble.
Voilà.
C'est JD qui l'a tiré en plus, le câble.
Ah, c'est pour ça que maintenant il se dépatouille. Donc, il est emmêlé dans
l'emmêlé,
les câbles.
Ouais,
je vais essayer de défaire tous les petits nœuds et après il viendra.
Et d'accord.
Ça joue ?
Très bien.
Ok, ben, bien sûr qu'il viendra pour faire le jeu du gnangnang. C'est Monsieur Gnangnang.
Ah oui, c'est le maître en la matière du Gnangnang. Hein. On n'a pas trouvé mieux.
Vous pourrez jouer avec nous, évidemment. Aujourd'hui, on vous fera également gagner un album de Cynic.
Oui, puisqu'on en parlait, dès que vous entendez Cynic entre 16h et 19h, là, on est un peu plus tard. Mais du coup, on va vous faire participer à un jeu.
Oui.
Et puis, vous allez peut-être repartir avec l'album, mais surtout, peut-être aussi le snowboard.
Le snowboard, oui, parce
puisque
que demain, il y aura un grand concours. Hein.
Voilà, dans On ne fait que passer.
Exactement.
Puisque Cynic est notre invité.
Il sera notre invité, vous gagnerez donc votre snowboard.
Snowboard.
Snowboard. Demain, donc, grâce à la sélection du jour. Et puis, on va vous emmener en voyage, parce que c'est vrai qu'il fait un petit peu froid. Pardon, mon cher Rio, je vous enlève votre casque.
Je disais, qu'est-ce qui m'arrive, là ?
Il fait un petit peu froid. Et mon ami Rio a trouvé une île absolument paradisiaque.
Ouais, bah ça dépend pour qui.
Ça dépend pour qui. On en parle peut-être juste après la musique, si vous voulez bien.
Pourquoi pas. Alors, hein, vos SMS, comme d'hab, sont les bienvenus. Code d'envoi FRI, vos messages, et le tout au 939. Pour l'instant, ça reste calme, on n'a encore rien starté, donc ça va venir. Hein.
Ça va venir, bien sûr. Vous mettez tout ce qui vous passe, hein, tout ce qui vous fait envie, tout ce que vous avez retenu pendant une semaine. Vous êtes dit, ah ça, je vais leur dire, je dis absolument.
C'est vous important. Allez-y, lâchez-vous, jusqu'à 20h, vous pouvez mettre même toutes les critiques.
Tout.
Vous détestez l'émission, mais dites-le, criez-le, s'il vous plaît.
Si vous l'aimez aussi, hein.
Voilà. Ouais, c'est, oui, tout à fait.
Oui.
C'est possible aussi. Kelly Rowland vient avec Work, et puis juste après, on parlera de cette île paradisiaque.
Ça marche.
Pour certains. This ain't gonna be easy. Thinking maybe we can make the combination. Wanna see me lose my breath, they wanna hear me moan.
je te fasse mal?
Pour que je ressente du plaisir, oui.
D'accord. Alors, tu as joui, toi aussi?
Le club de Rio est Tania.
Et vos SMS qui sont les bienvenus au 939, code d'envoi FRI, et ça y va, ça commence tranquille. Hello tout le monde, grâce à vous j'ai un super t-shirt. Gros bisous à Dada, Kate et Aurélie de Hulquette la Bobette.
Ah oui, c'est son super t-shirt qui avait été fait par Graphine. On avait reçu donc Christophe qui tient le magasin Le Vestiaire à Fribourg.
Voilà, puis c'est des t-shirts adaptés, on va dire, au Donnstix Club, puisqu'il y a le t-shirt...
Salut Sama.
Salut Sama, ouais. C'est un bigote, mais non, c'est non. Pas ça.
Who are the guys?
Voilà, par exemple.
Excusez, mais je parle pas très bien le français. Chopon.
Voilà, exactement.